Et les matins débutent avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La fin de la cavale pour Chérif Chekat à Strasbourg, le tireur du marché de Noël qui a fait 3 morts et 13 blessés, a été tué par les policiers dans le quartier où l'on avait perdu sa trace, le Neudorf, hier soir vers 21h. Nous reviendrons sur cette traque et son issue, ainsi que sur le soulagement des Strasbourgeois.
La CGT veut mobiliser aujourd'hui sur le thème du pouvoir d'achat, un mot d'ordre qui n'est pas une récupération du mouvement des Gilets jaunes. C'est ce que dit en tout cas la CGT.
Tout comme les Gilets jaunes, la contestation lycéenne est partie de la France rurale et périphérique, c'est ce que nous dira Sonia Bourane. Et puis à la fin de ce journal, nous irons au Brésil où le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est impliqué dans une affaire de corruption. Après ce journal, Guillaume.
Eh bien la question du jour dans une dizaine de minutes, Anne-Laure. Les maires peuvent-ils réconcilier les citoyens et leurs gouvernants? On posera la question à Vanik Berberian. Il est maire sans étiquette de Gargilès-Dampierre dans l'Indre et il est surtout président de l'Association des maires ruraux de France. C'est à ce titre qu'il répondra à nos questions.
Chérif Chekat, recherché depuis 48 heures, a donc été tué hier soir par la police strasbourgeoise dans le quartier du Neudorf, là où il avait disparu après l'attentat de mardi soir. Vers 21h, trois policiers l'ont aperçu marchant dans la rue de ce quartier populaire proche du centre-ville. En voulant l'interpeller, ils ont essuyé des tirs et ont riposté. Le récit de cette longue traque avec Aude Razo de France Bleu Alsace.
Quand la police perd sa trace le soir de l'attentat, Chérif Chekat est aux alentours de l'entreprise Epner, dans le nord du Neudorf. Il est blessé, mais il arrive à filer entre les doigts des policiers. Pendant 2 jours, plus de 700 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. Le lendemain de l'attentat, une opération est menée à Kehl, en Allemagne. Chérif Chekat a-t-il réussi à passer la frontière? À Strasbourg, les policiers n'y croient pas vraiment. Les contrôles aux frontières, au pont de l'Europe notamment, ont été renforcés très vite le soir de l'attentat. Hier après-midi à Strasbourg, tout s'accélère. Une habitante du Neudorf remarque un homme qui ressemble au fugitif. Elle appelle la police. Des opérations de vérification de grande ampleur sont menées au Neudorf et à la Méno. En vain, la nuit tombe, la police continue de ratisser la zone, un hélicoptère aussi, et ça paye. Quelques heures plus tard, fin de cavale, le terroriste est abattu.
Et après l'annonce de sa mort, le média de propagande de l'État islamique, Hamak, a affirmé que le tireur, je cite, faisait partie de ses soldats. Le chef du parquet antiterroriste s'est rendu dans la nuit à Neudorf, il devrait s'exprimer ce matin. Strasbourg peut enfin respirer, fermé depuis l'attaque qui, on le rappelle, a fait 3 morts et 13 blessés, le marché de Noël, emblème de la ville à cette période de l'année, rouvrira ses portes à 11h ce matin. C'est ce qu'a annoncé le maire de la ville, Roland Ries. Écoutez-le.
C'est une très bonne nouvelle qui nous permettra plus facilement de retrouver notre mode de vie, notre façon de vivre, nos valeurs. Nous avions déjà décidé de relancer le marché de Noël. Et cela nous conforte évidemment dans cette décision et dans l'orientation générale qui consiste maintenant à revenir à une vie normale après la terreur qui s'est emparée de la ville et la sidération.
Le maire de Strasbourg, Roland Ries. Enfin, parmi les blessés, 3 personnes sont toujours entre la vie et la mort et 3 sont sorties de l'hôpital, a indiqué hier le ministre de l'Intérieur. Une trahison pour Bruno Le Maire, une nouvelle désastreuse pour le président du conseil régional d'Aquitaine et un choc pour les salariés de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde. Ford, qui a donc annoncé hier qu'il écartait l'offre de reprise de l'usine par la société belge Punch Powerglide, un repreneur appuyé pourtant par le gouvernement français. La nouvelle a précédé l'annonce de l'arrêt complet de la production pour le site. Arrêt est prévu à la fin du mois d'août prochain. Ford estime qu'un plan social est préférable à une reprise. 850 emplois sur le site et 2000 emplois induits sont touchés. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. C'est un sujet de préoccupation, clairement identifié par ceux qui portent le gilet jaune, le pouvoir d'achat, ou plutôt ce qu'il reste pour vivre à la fin du mois. Ce sera le sujet du hashtag de la rédaction tout à l'heure à 7h24 et c'est aussi le mot d'ordre d'une journée d'action organisée par la CGT en ce 14 décembre. Dans les transports, la RATP et la SNCF assurent que le trafic sera normal sauf pour certains TER en province et sur la ligne du RER B en Ile-de-France, mais d'autres secteurs pourraient être touchés par cet appel à la grève et à la manifestation, un appel syndical qui se défend pourtant de vouloir récupérer le mouvement des Gilets jaunes. Écoutez à ce propos Baptiste Talbot, secrétaire général de la CGT Service Public. Il était l'invité hier du journal de 22h.
La CGT, comme l'ensemble des acteurs de ce pays, je le souligne, a été effectivement quelque peu surprise, parfois bousculée par ce mouvement. Donc il nous a fallu un petit peu de temps pour l'analyser puis prendre toute la mesure de ce qu'il représente. Nous, ce qu'on note aujourd'hui, c'est que c'est un mouvement qui, de plus en plus, axe ses thématiques et son action sur les questions sociales, sur les questions de répartition des richesses, sur l'exigence de la justice fiscale, sur le fait que il y a de fortes inégalités de revenus dans notre pays et que c'est une situation qui est devenue insupportable. Donc la CGT, elle cherche pas à rattraper quoi que ce soit. La CGT, elle continue à mener son action syndicale dans les entreprises, dans les administrations. Et nous considérons que notre action, elle est en fait complémentaire et convergente de celle des Gilets jaunes, mais il s'agit absolument pas de récupérer un mouvement qui a sa propre autonomie et dans lequel d'ailleurs il y a un certain nombre de militants de la CGT qui sont impliqués. Donc on considère que Gilets jaunes et Gilets rouges doivent agir dans le même sens pour faire reculer ce gouvernement et les forces qui sont derrière, à savoir les forces de la finance.
Des propos recueillis par Alexandra Dubouchron. La FSU, premier syndicat dans l'éducation nationale, Solidaires Sud et l'UNEF appellent à se joindre au mouvement.
7h06, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin dans les matins de France Culture. Les enseignants sont donc appelés à la grève contre la réforme du bac et du lycée. Sur les mêmes sujets, les lycéens, eux, continuent aujourd'hui leur mobilisation.
Un mouvement lycéen dont la sociologie se rapproche de celle des gilets jaunes, car il est parti des zones rurales et périurbaines. Ce sont les élèves, en effet, de milieux ruraux ou de villes moyennes qui se sentent le plus exclus par les réformes à venir de l'éducation. Exemple, dans une petite ville de 3000 habitants dans l'Est, tous les lycéens ont obtenu gain de cause, mais restent mobilisés. Le reportage de Sonia Bourane.
Avec la réforme du bac, le lycée de Salins-sur-Bain, une petite ville du Jura, risquait tout simplement de disparaître. Judith et ses camarades en terminale se sont mobilisés. Ils ont l'impression d'être les grands oubliés du gouvernement.
La réforme, elle est faite pour les zones urbaines, pas rurales. Là, si on a des petites options, les personnes dans les zones rurales, elles ne voudront pas forcément. On aura 5 élèves pour une toute petite filière et finalement, les petits lycées des zones rurales, ils se fermeront, c'est obligatoire.
Les professeurs aussi ont manifesté, parmi eux Yannick Favori.
On nous explique que les options que nous n'avons pas et spécialités que nous n'avons pas sont ouvertes dans l'établissement d'à côté, sauf que chez nous, l'établissement d'à côté, il est à une demi-heure, 45 minutes, et qu'il n'y a pas de transport en commun pour y aller, quoi. Donc là, effectivement, ça rejoint les problématiques actuelles qui ont été évoquées en France sur les zones rurales.
Et le mouvement actuel des Gilets jaunes, qui a beaucoup de similitudes, Ludivine Bantigny est historienne des mouvements de jeunesse.
Ce qui est tout à fait frappant, c'est que c'est un mouvement qui part surtout de lycées situés en zone périurbaine, en zone rurale, en zone aussi de quartiers populaires de banlieue, des grandes villes, et ça s'est étendu vers les lycées de centre-ville. Donc c'est un peu le mouvement inverse de ce à quoi on assiste habituellement et historiquement dans les grands mouvements de jeunesse, aussi bien lycéens qu'étudiants.
Un mouvement lycéen inédit mené par ceux qui n'ont pas l'habitude de se faire entendre.
Sonia Bourane, autre secteur concerné par les réformes, et ce depuis plusieurs années déjà, l'audiovisuel public français et principalement la télévision. La PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte, a annoncé un grand plan de départ au syndicat ces derniers jours, à l'issue d'un CSE, ce comité social et économique, nouvelle instance unique représentative du personnel, née des ordonnances loi travail. C'était cette même réforme qui prévoyait les ruptures conventionnelles collectives que souhaite également utiliser France Télévisions. Autant d'outils qui vont donc servir à concrétiser la grande réforme annoncée de l'audiovisuel public. Maxime Tellier.
Oui, le gouvernement en avait présenté les grandes lignes dès l'été dernier. Pour France Télévisions, il s'agissait de trouver 160 millions d'euros à économiser d'ici 4 ans. La direction de la télévision publique vient donc de rendre sa copie, en tout cas un premier aperçu. Elle veut d'abord lancer un plan de départ. Delphine Ernotte, la PDG, n'a pas donné de chiffres précis au syndicat, mais la CGT évoque déjà 1000 suppressions de postes envisagées sur une entreprise qui compte 9800 salariés. France Télévisions affirme avoir l'accord de la tutelle, c'est-à-dire de l'État, qui accepterait de financer ce plan de départ. Mais en même temps qu'elle fait partir les plus anciens, France Télévisions voudrait en profiter pour recruter des jeunes professionnels. Aujourd'hui, l'âge moyen est de 49 ans, avec seulement 3% de salariés âgés de moins de 30 ans. La direction ne s'en cache pas, elle veut rajeunir pour réduire la masse salariale, recruter des profils plus polyvalents, capables de produire des contenus numériques sur Internet. Elle veut aussi augmenter la part de travailleurs temporaires, c'est-à-dire précaires, en CDD ou payés à la pige. Enfin, et ce sera sans doute le plus difficile. Elle veut remettre en cause l'accord collectif signé en 2013 avec les syndicats, accord jugé trop favorable pour les salariés. Les mesures précises seront présentées le mois prochain, en janvier, mais l'avenir s'annonce donc mouvementé chez France Télé.
Maxime Tellier, l'ONU obtient une trêve au Yémen, en tout cas dans les régions touchées par la famine. Trêve négociée en Suède, où se poursuivent les discussions entre le gouvernement et les rebelles houthis. Un cessez-le-feu doit entrer en vigueur dans les prochains jours à Hodeïda pour permettre de faire entrer l'aide humanitaire via ce port de la mer Rouge. Et puis, à Bruxelles, les exigences demandées par Theresa May pour aider à faire voter l'accord de Brexit par les députés britanniques, ces exigences sont trop vagues. C'est l'agacement qui ressort en effet de la première journée d'un sommet européen qui se tient à Bruxelles. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, a annoncé qu'il publierait mercredi prochain toutes les informations utiles sur la préparation d'un no deal, une absence d'accord. Il promettait de délivrer son pays de la corruption qui le gangrène. Voilà le président brésilien lui-même impliqué dans une affaire de transactions financières douteuses. Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite, élu à la tête du Brésil en octobre dernier, est mis en difficulté via l'un de ses proches, un collaborateur de l'un de ses fils, qui aurait perçu des sommes bien trop importantes pour la fonction qu'il exerçait. Les explications d'Olivier Poujade.
Le terme de Bolsogate se répand déjà à travers le pays, mais comme souvent lorsqu'il est mis en difficulté, Jair Bolsonaro ne s'embarrasse pas de longs discours pour répondre aux accusations. Commentaire publié avant-hier sur son site Facebook. Si une erreur a été commise par moi, par mon fils ou par Queiroz, nous paierons pour cette erreur. Fabricio Queiroz, ancien policier militaire, ancien homme à tout faire de la famille Bolsonaro, cet homme est aujourd'hui visé par la COAF, agence gouvernementale chargée de surveiller les transactions financières. Il aurait perçu, en 2016 et 2017, 270 000 euros, une somme totalement injustifiée compte tenu de ses revenus, et Queiroz aurait également versé un chèque de 5 500 euros à la future première dame, Michelle Bolsonaro, le remboursement d'un prêt non déclaré, justifie le futur chef de l'État. La COAF n'est pas la seule à s'intéresser à cet ancien assistant. Pour accéder à la présidence, Jair Bolsonaro s'est entouré de nombreux militaires qui réclament aujourd'hui les explications du mystérieux Queiroz. Il reste silencieux et les généraux de l'armée brésilienne commencent à s'impatienter.
Olivier Poujade, le temps de ce vendredi, couvert voire neigeux sur les Pyrénées, pluvieux sur la pointe bretonne, assez lumineux sur le reste du pays. Il fait froid ce matin de moins 2 à moins 5 degrés de la Normandie au nord-est et à Rhône-Alpes. Les températures maximales ne dépasseront pas 0 à 5 degrés sur le nord et l'est, entre 6 et 13 degrés sur la façade atlantique, le sud-ouest et PACA, 11 à 15 degrés en Corse.